L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. Le premier martyr. Ce mot martyr veut dire témoin. Le Seigneur Jésus est appelé le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 3, verset 14.
Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. »
Le Seigneur Jésus est appelé le témoin fidèle et véritable parce qu'il a rendu témoignage à Dieu fidèlement et selon la vérité quand il était sur la terre. Tous les chrétiens, jeunes ou vieux, sont appelés à être des témoins pour Christ, en confessant son nom et en le servant fidèlement. Mais le nom de martyr est réservé à ceux qui, par amour pour Christ et par fidélité à son nom, ont enduré des souffrances et même la mort. Et la liste en est nombreuse. Satan, le grand ennemi de Dieu et de Christ et des hommes, est toujours actif pour faire le mal. Les deux moyens qu'il emploie dans ce but, c'est la ruse ou le mensonge, et la violence. Il est menteur et meurtrier dès le commencement. Jean 8, verset 44. Et il trouve le méchant cœur des hommes toujours prêt à accomplir ses desseins.
Jean 8, verset 44. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Nous avons déjà vu que les apôtres avaient été mis en prison et battus pour le nom de Jésus, et comment Satan chercha à introduire le péché dans l'assemblée, en séduisant Ananias et Saphira. Maintenant, nous avons à voir ce que le Saint-Esprit nous rapporte de celui qui, le premier, donna sa vie pour le Seigneur Jésus. C'était Étienne, l'un des 7 hommes choisis pour veiller à la distribution des aumônes aux pauvres de l'assemblée. Il était plein de foi et de l'Esprit Saint, rempli de grâce et de puissance. Il ne se contentait pas de servir les pauvres aux tables, mais accomplissait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles, et, le cœur rempli d'amour pour Jésus et pour les âmes des pécheurs, il annonçait l'Évangile. Ainsi, la parole de Dieu était reçue et crue par bien des personnes, le nombre des disciples augmentait beaucoup, et même un grand nombre de sacrificateurs étaient convertis. Et c'est là ce qui excita la rage de Satan, qui se servit des Juifs incrédules pour chercher à faire mourir Étienne, comme autrefois ils avaient fait mourir le Seigneur Jésus. Certains de ces Juifs se mirent à contredire Étienne, qui cherchait à amener les âmes à Christ. Mais le fidèle témoin du Seigneur parlait avec une sagesse divine et non avec des raisonnements humains. L'Esprit Saint, dont il était rempli, lui enseignait ce qu'il devait dire. Et qui peut résister à la sagesse et à l'Esprit de Dieu? Personne. Aussi, ses adversaires, confondus par ses paroles, se jetèrent sur lui, l'entraînèrent devant le Sanhédrin, la grande assemblée des chefs du peuple, et là suscitèrent contre lui de faux témoins, qui l'accusaient d'avoir blasphémé contre Dieu et contre Moïse. On avait fait ainsi pour Jésus, qui avait dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, car tout disciple accompli sera comme son maître. » Luc 6, verset 40. Étienne était là, devant cette assemblée imposante, qui avait les yeux arrêtés sur lui. Mais l'Esprit Saint remplissait son cœur de pensées célestes. L'éclat des choses divines se reflétait sur son visage, de telle sorte qu'il semblait à ses adversaires voir le visage d'un ange. Et c'était bien en effet un ange que Dieu plaçait au milieu d'eux pour leur apporter un dernier message. Une note en bas de page, ange veut dire messager. Le souverain sacrificateur l'interrogea en lui demandant si les accusations portées contre lui étaient vraies. Mais le serviteur de Dieu ne pense pas à lui-même. Il pense à la gloire du Seigneur et au bien des âmes. Étienne n'essaya pas même de se défendre et de repousser les accusations de ses ennemis. Il rappela aux Juifs leur histoire depuis le moment où Dieu, le Dieu de gloire, choisit et appela Abraham leur père. Il plaça devant eux la suite des grâces que Dieu leur avait faites et leur rébellion constante contre un Dieu si patient et si bon. Et il termina en leur disant, « Vous êtes tels que vos pères, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vos pères ont persécuté et tué les prophètes qui avaient prédit la venue du juste, et vous, vous l'avez livré et mis à mort. Dieu vous avait donné sa loi, et vous ne l'avez pas gardée. » Étienne allait peut-être ajouter à son discours quelques paroles pour les engager à se repentir, mais eux, au lieu d'être touchés de compunction, comme ceux qui avaient entendu Pierre le jour de la Pentecôte, résistèrent encore une fois au Saint-Esprit. En entendant les paroles du serviteur de Christ, ils frémissaient de rage et grinçaient les dents contre lui. Quelle chose terrible quand le cœur se révolte contre Dieu. Triste tableau que cette fureur qui se peint sur des visages d'hommes, et quel contraste avec ce qui suit. Le Seigneur, dans sa grâce, voulut qu'un dernier et solennel témoignage fût rendu devant les chefs du peuple, et en même temps que son fidèle témoin fût puissamment soutenu dans sa lutte suprême contre ses adversaires. Étienne, rempli de l'Esprit Saint et des pensées du ciel où était son Sauveur bien-aimé, avait les yeux fixés en haut, et tout d'un coup Dieu lui ouvre le ciel. Il voit la gloire de Dieu et, à la droite de Dieu, Jésus lui-même. Étienne ne peut retenir pour lui ce qui fait déborder son cœur. Il faut qu'il rende témoignage, non plus à ce qu'il croit, mais à ce qu'il voit, c'est-à-dire à la gloire de Christ. Il s'écrie, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ce qui a toujours soutenu les martyrs, tous ceux qui ont souffert pour Christ, ce qui seul soutient le chrétien, c'est la contemplation du Sauveur dans sa gloire. C'était pour les Juifs le suprême appel. Jésus était debout, prêt à venir pour eux s'ils avaient cru. Mais leurs cœurs s'endurcirent, ils bouchèrent leurs oreilles pour ne point entendre la voix du serviteur de Dieu. Tous, d'un commun accord, se précipitèrent sur lui. Aucun n'éleva la voix en sa faveur, et ils le poussèrent hors de la ville. Là, ils le lapidèrent, c'est-à-dire l'accablèrent à coups de pierre, jusqu'à la mort, pour faire disparaître ce témoin qui avait fait reluire devant eux la lumière divine. Ceux qui le lapidaient mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. À quel terrible jugement ce pauvre peuple juif s'exposait. C'est une chose effrayante de rejeter le Seigneur Jésus et de tomber ensuite entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 28 à 31.
Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. D'une punition combien plus sévère, pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Que faisait le premier martyr tandis que les lourdes pierres venaient meurtrir ses membres? Se plaignait-il? Accusait-il ses bourreaux? Demandait-il vengeance? Non. Il venait de contempler Jésus, et il était transformé à son image. La pensée de Jésus remplissait tout son cœur, et il lui remettait son esprit. Mais en pensant à Jésus et à ceux qui le lapidaient, il se rappelle ce qu'avait fait Jésus quand on le clouait sur la croix. Cet adorable Sauveur avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » et Étienne se soulève sous la grêle de pierre, et, malgré les douleurs que lui causent ses membres brisés, il se met à genoux, et, à l'exemple de son divin maître, il crie à haute voix, tous entendant ce dernier témoignage d'amour, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Ces dernières paroles sont des paroles de grâce. Oh, comme il ressemblait à son Sauveur! Quelle communion de pensée avec Jésus! Demandons au Seigneur que nous puissions le connaître toujours mieux, vivre toujours plus près de lui, et ainsi lui ressembler toujours davantage en fidélité, en amour et en grâce. Après ces paroles, le premier martyr s'endormit. Quel doux repos après ses souffrances! Son esprit alla auprès de Jésus, et son corps, que des hommes pieux enlevèrent et ensevelirent, attend dans le sépulcre le moment où Jésus viendra, et où, à sa voix, les morts en Christ ressusciteront. Serons-nous tous du nombre des bienheureux témoins de Christ qui iront à sa rencontre dans les nuées en l'air quand il viendra? Nous n'aurons pas sans doute à mourir lapidés comme Étienne, mais tous nous sommes appelés à être les serviteurs du Seigneur. Si nous voulons régner avec lui, il faut le servir et souffrir pour lui. La première persécution, l'assemblée s'étend hors de Jérusalem. Jusqu'alors, l'assemblée ne se composait que des Juifs qui avaient cru à Jérusalem. Mais le Seigneur voulait qu'elle s'étendît au loin. Avant sa mort, il avait dit, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. Les Juifs avaient rejeté le Sauveur et l'avaient mis à mort. Dieu avait usé de patience envers eux en réponse à la prière de Jésus, « Père, pardonne-leur !» Et il leur avait envoyé des messages par ses apôtres et ses serviteurs qui, remplis du Saint-Esprit, leur annonçaient le pardon et le salut s'ils se repentaient. Plusieurs reçurent la bonne nouvelle et crurent au Sauveur. Mais la nation même, conduite par ses chefs, les sacrificateurs et les anciens, résista au Saint-Esprit et mit à mort le fidèle martyr Étienne, déclarant ainsi, d'une manière formelle, qu'il ne voulait pas que Jésus régnât sur eux. Luc 19, verset 14.
Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. »
Alors ce fut fini pour les Juifs comme peuple. Ils n'eurent plus à attendre que le jugement qui tomba sur eux plusieurs années après, quand Jérusalem fut prise et qu'ils furent dispersés. Ils demeurent sous ce jugement et y resteront jusqu'à ce qu'humiliés, ils reconnaissent celui qu'ils ont rejeté, Jésus, comme roi d'Israël. C'est quand le Sauveur apparaîtra des cieux. Maintenant, le salut allait être annoncé aux Samaritains et aux nations, selon la parole du Seigneur, « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Acte 1, verset 8. La repentance et la rémission des péchés devaient être prêchées à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Un Juif cessait d'avoir des privilèges particuliers. Il lui fallait croire en Jésus tout comme un Samaritain ou un païen pour être sauvé, et alors les uns et les autres se trouvaient placés sur le même niveau devant Dieu. Ils recevaient le même esprit, faisaient partie du même corps de Christ, l'Assemblée, et avaient ensemble accès auprès du Père par un seul esprit. Éphésiens 2, verset 17-18.
Et il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul esprit.
Il n'y avait plus de peuple terrestre, mais un peuple céleste. Nous allons voir comment cela se réalisa. La méchanceté des chefs du peuple ne fut pas satisfaite par la mort d'Étienne. La persécution s'étendit à toute l'assemblée à Jérusalem. À la tête des persécuteurs se trouvait ce jeune homme nommé Saul, au pied duquel ceux qui lapidaient Étienne avaient mis leurs vêtements. Ils consentaient donc à la mort du saint martyr, et non contents de cela, transportés de fureur contre les chrétiens, ils les entraînaient, hommes et femmes, en prison, et s'efforçaient de leur faire blasphémer le nom du Sauveur. Telle est l'inimitié du cœur de l'homme contre Dieu et son Fils, et ce cœur, c'est le nôtre. C'est ainsi que Satan s'efforçait par la violence de détruire ou d'entraver l'œuvre de Dieu. Mais cela est-il possible? Non. Dieu fait servir les efforts même de Satan contre lui pour accomplir ses desseins de grâce. Le résultat de la persécution fut de disperser les croyants, sauf les apôtres, dans la Judée et la Samarie et même plus loin, comme nous le verrons. Et que firent-ils? Pouvaient-ils garder dans leur cœur, pour eux-mêmes, sans rien dire, le trésor de la connaissance du Sauveur et de leur espérance céleste? Non, c'était impossible. De ce qui remplit le cœur, la bouche parle. Si vous aimez le Sauveur, on le verra bientôt à votre conduite, on l'entendra à vos discours. Ces chrétiens dispersés allaient çà et là, annonçant la parole divine. Chacun d'eux, là où Dieu le conduisait, était comme un flambeau faisant briller autour de lui la lumière céleste. Ainsi se répandait la bonne nouvelle du salut, et Dieu faisait tourner à la gloire de son Fils et au bien des âmes la méchanceté de Satan et des hommes. Parmi ceux qui quittèrent Jérusalem se trouvait Philippe, l'un des sept choisis avec Étienne pour le service de l'assemblée. On l'appelle Philippe l'évangéliste, parce que le Seigneur lui avait conféré d'une manière spéciale le don d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux âmes inconverties. C'est le Seigneur Jésus qui, étant monté au ciel, donne des dons aux hommes et à l'assemblée. Par son Saint-Esprit, il qualifie les uns pour être apôtres et prophètes, et d'autres pour être pasteurs et docteurs ou évangélistes. Éphésiens 4, versets 7 à 12.
Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ.
Il les appelle et les envoie pour exercer ses dons de grâce. Philippe ayant donc quitté Jérusalem, le Seigneur dirigea ses pas vers la Samarie. C'était le pays situé entre la Galilée au nord où se trouvait Nazareth, et la Judée au sud où était la grande ville de Jérusalem. Les Juifs détestaient les Samaritains, et les Samaritains ne pouvaient souffrir les Juifs. Mais nous savons que le Seigneur Jésus avait plus d'une fois traversé cette contrée, et y avait montré sa grâce comme sauveur du monde. Une fois, fatigué du chemin, il s'était assis au bord d'un puits dans la Samarie. Une pauvre femme, une grande pécheresse, était venue puiser de l'eau, et le Sauveur lui avait fait connaître l'eau vive et éternelle de la grâce. La femme, ayant cru en lui, courut vers les habitants de la ville pour leur parler de Jésus qui resta avec eux 2 jours et leur annonça le salut. Quelle grâce il y avait en Jésus! Une autre fois, on n'avait pas voulu le recevoir dans un village samaritain. Ses disciples auraient voulu que le feu du ciel détruisît ces gens qui repoussaient leur maître. Mais que dit Jésus? Je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Luc 9, versets 52 à 56.
Et il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Et ils ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme aussi fit Élie ?» Et se tournant, il les censura fortement et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et ils s'en allèrent à un autre village.
Et Jean 12, verset 47.
Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde.
Maintenant, Jésus continue son œuvre de grâce envers les pauvres Samaritains méprisés des Juifs, en leur envoyant Philippe pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Philippe, par la puissance du Seigneur, guérissait les malades et chassait les démons. Dieu rendait ainsi témoignage à sa parole. Les gens de la ville crurent les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ils furent baptisés et ainsi reçus dans l'assemblée chrétienne. Leurs cœurs étaient remplis de joie. Et c'est là toujours ce qui arrive quand on croit en Jésus. On est rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Les apôtres, à Jérusalem, ayant appris l'œuvre merveilleuse que Dieu opérait en Samarie, y envoyèrent Pierre et Jean. Les Samaritains croyants n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ce grand privilège des chrétiens. Le Seigneur, dans sa sagesse, ne voulait pas que les Samaritains, qui avaient de grandes prétentions, se crussent au-dessus des Juifs. Il avait dit autrefois à la femme de Sichar, « Le salut vient des Juifs ». Et c'est à la prière des apôtres et après l'imposition de leurs mains que le Saint-Esprit vint sur les Samaritains. Ils étaient maintenant unis à Christ et du même corps que les Juifs. Il n'y avait plus de distinction, plus de haine, un même amour remplissait leur cœur. La barrière qui les séparait était ôtée. Autrefois, Jean, dans son ignorance, avait demandé que le feu du ciel détruisît les Samaritains. Maintenant, il prie pour eux. Telle est la différence entre le cœur naturel et le cœur transformé par la grâce. Les apôtres, après avoir annoncé la parole du Seigneur, retournent à Jérusalem et, en passant dans la Samarie, prêchent l'Évangile dans plusieurs villages. Comme ils devaient se rappeler le temps où, dans ces mêmes contrées, ils suivaient leur maître, mais avec des cœurs charnels, sans comprendre son amour et son esprit de grâce envers les pauvres pécheurs, et où ils lui demandaient de détruire ce que maintenant ils étaient si heureux de voir sauvé. Quant à Philippe, il avait achevé ce que le Seigneur voulait qu'il fît dans la Samarie, et le Seigneur l'envoie annoncer l'Évangile autre part. Mais ce n'est plus à des foules, à tout le peuple d'une ville, c'est à une seule personne. Le serviteur du Seigneur est soumis à son maître. Il obéit, quels que soient ses ordres. Philippe, sans doute, se plaisait en Samarie au milieu de tout ce peuple converti par son moyen et qui, on peut en être sûr, avait pour lui une grande affection. Mais un ange du Seigneur lui apporte un message. « Va, lui dit-il, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Quel ordre étrange ! Envoyer un évangéliste sur un chemin désert. À qui prêchera-t-il? Dieu le savait, et cela suffisait à Philippe. Aussi obéit-il sans questionner. C'est ainsi qu'on fait de tout temps les vrais serviteurs de Dieu. Philippe apprit bientôt pourquoi le Seigneur l'appelait là. Il y avait quelqu'un sur ce chemin désert. C'était un homme, un grand seigneur, venu de très loin, d'Éthiopie, à Jérusalem, pour adorer Dieu. C'était sans doute un païen qui avait appris à connaître le vrai Dieu par les saintes Écritures que les Juifs répandus partout portaient avec eux. Il revenait de Jérusalem, et que faisait-il? Pensait-il à ses richesses, à son pays, aux amis qu'il allait revoir? Non. D'autres pensées remplissaient son âme. C'était un homme qui avait de profonds besoins que ses trésors et sa haute position n'avaient pu satisfaire. Il désirait connaître le Dieu qu'il était venu adorer, et pour cela il lisait sa parole. Pouvait-il faire mieux? Non, assurément. Mais quelque chose lui manquait. L'homme animal, c'est-à-dire ce que nous sommes par nature, ne peut comprendre les choses de Dieu si la lumière céleste ne l'éclaire. 1 Corinthiens 2, verset 14.
Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement.
Une note en bas de page, l'homme animal est l'homme animé seulement par son âme, sans l'enseignement et la puissance de l'Esprit Saint. Reprise de l'esquisse. Le grand seigneur éthiopien, qui certainement était loin d'être un ignorant dans le monde, ne comprenait pas ce qu'il lisait. Mais Dieu répond toujours aux besoins de l'âme et aux désirs sincères du cœur. Il avait conduit l'Éthiopien à lire un chapitre qui parlait de Jésus. Et maintenant, sur cette route solitaire qu'il parcourait avec sa suite, se trouvait un messager de Dieu pour lui faire comprendre ce qui était obscur à son esprit. C'était Philippe, à qui l'Esprit de Dieu dit de se rapprocher du char de l'étranger. Philippe obéit et l'entendit, lisant à haute voix dans le prophète Ésaïe, le beau chapitre 53, qui parle des souffrances et de la gloire du Sauveur. Philippe comprenait bien ce chapitre. Les paroles qu'il entendait plaçaient devant les yeux de son cœur le maître qu'il connaissait et aimait. Il voulait savoir si l'étranger jouissait du même bonheur que lui, et lui demanda s'il comprenait ce qu'il lisait. Le grand seigneur n'eut pas honte d'avouer son ignorance au pauvre évangéliste qui parcourait la route à pied. Il n'eut pas honte de le faire monter sur son char et de le faire asseoir à ses côtés. Et le voilà devenu écolier, et qui apprend de la bouche de Philippe que celui qui a été mené à la boucherie comme une brebis n'est autre que le Fils de Dieu, devenu un homme ici-bas, rejeté, méprisé par les siens, cloué sur une croix et portant là le poids de nos péchés pour les expier. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quelle parole précieuse! Voilà pourquoi Philippe avait dû quitter la Samarie et son peuple. Voilà pourquoi il était venu sur une route déserte. C'était pour annoncer l'Évangile à cet étranger. Et l'Évangile fut cru. La lumière jaillit dans le cœur du grand Seigneur. Il comprit la parole et la reçut avec joie. Il apprit que le Dieu qu'il était venu adorer était le Dieu qu'il aimait, le Père de Jésus-Christ et son Père. Quelle joie remplit son cœur. Il fit arrêter son char là où se trouvait de l'eau et demanda à être baptisé et fit ainsi profession, devant tous ceux qui l'accompagnaient, de sa foi au Seigneur Jésus. Par la foi, il avait part à la mort et à la résurrection de ce précieux Sauveur, à sa mort pour voir ses péchés ôtés, à sa résurrection pour sa justification, à sa mort pour être enseveli quant à ce qui est du vieil homme, à sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Romains 4, verset 25.
Lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification.
Romains 6, versets 4 et 6.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché.
Il était ajouté lui aussi à l'assemblée, il était membre du corps de Christ et allait devenir, dans son pays lointain, une lumière pour faire connaître le nom du Sauveur. Dans ce pays, le nom de Jésus est encore connu et le christianisme professé, bien que mêlé, hélas, à une foule d'erreurs et de superstitions. Ainsi s'accroissait l'assemblée. Elle allait s'étendre encore plus parmi les nations, comme nous le verrons. L'Esprit enleva Philippe pour le conduire vers de nouveaux endroits à évangéliser, et l'étranger continua seul son chemin, plein de joie, possédant dans son cœur un trésor devant lequel s'éclipsaient tous ceux dont il était l'intendant pour sa souveraine. Saul de Tarse, le grand persécuteur qui devint l'apôtre des nations. Le Seigneur voulait que la bonne nouvelle du salut fût annoncée aux nations jusqu'au bout de la terre et que ceux qui croiraient fussent sauvés et entrassent aussi dans son assemblée. Les disciples, que la persécution avait chassés de Jérusalem, s'étaient répandues au loin et avaient annoncé la parole de Dieu. Quelques-uns même, étant venus à Antioche, ne s'étaient pas contentés de parler aux Juifs, mais avaient commencé à évangéliser les Grecs, et le Seigneur avait béni leurs paroles. Philippe aussi avait annoncé la bonne nouvelle à un Éthiopien qui avait cru au Seigneur Jésus et avait été baptisé. C'était le commencement de la grande œuvre de l'évangélisation des nations. Jusqu'alors, elles avaient été sans Dieu et sans espérance dans le monde. Éphésiens 2, verset 12.
Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde.
Mais la lumière s'était levée pour elles aussi. Christ, étant mort sur la croix pour le salut de tous, voulait attirer tous les hommes à lui. Mais quand Dieu veut accomplir une grande œuvre, il se choisit un instrument qu'il prépare dans ce but. Ainsi Moïse fut choisi et préparé pour être le libérateur d'Israël. Dans un temps plus voisin de nous, Luther et d'autres furent, en différents pays, choisis et préparés de Dieu pour accomplir dans l'Église déchue la grande œuvre de la Réformation. Pour l'évangélisation des nations, Dieu choisit aussi un homme qu'il prépara, auquel il donna les qualités nécessaires et qu'il appela par sa grâce et sa puissance quand le temps fut venu. Cet homme n'était pas un païen converti, mais un juif. Et pour montrer sa gloire et sa grâce souveraine, Dieu choisit le juif le plus attaché au judaïsme et le plus ennemi de Christ et de ses disciples. C'était ce jeune homme nommé Saul qui était témoin de la mort du fidèle martyr Étienne et qui y consentait, qui, ensuite, plein de fureur contre les chrétiens, les poursuivait jusque dans leur maison et les traînait en prison. C'est ce terrible persécuteur que Dieu avait choisi dès sa naissance pour faire de lui un de ses serviteurs les plus fidèles, afin qu'il annonçât la foi que d'abord il voulait détruire. Je désire retracer ici son histoire, histoire merveilleuse, qui nous montre la puissance et l'étendue de la grâce de Dieu, agissant dans un homme, histoire liée intimement à celle de l'assemblée dans les premiers temps, tandis que, par ses écrits inspirés de Dieu, ce fidèle serviteur du Seigneur continue et continuera jusqu'à la fin à instruire et à édifier l'assemblée de Dieu. Saul était né à Tarse, ville de Cilicie, dans le sud-est de la Turquie actuelle qui subsiste encore. C'est maintenant une ville de peu d'importance, mais alors c'était une cité grande, populeuse, commerçante, riche et renfermant des écoles célèbres. Bien que juif, descendu de parents juifs et de la tribu de Benjamin, Saul, par sa naissance, était citoyen romain. Ce titre conférait de grands privilèges. La personne d'un citoyen romain était sacrée, pour ainsi dire. Il était interdit de le châtier ou de l'emprisonner sans jugement. Certaines peines, par exemple celle du fouet et de la crucifixion, ne pouvaient lui être infligées, et il avait toujours le droit, en dernier ressort, d'en appeler à l'empereur lui-même. Nous ne savons rien des parents de Saul, sinon que son père était pharisien. Peut-être ne restèrent-ils pas à Tarse, mais vinrent-ils à Jérusalem, car Saul fut, dit-il lui-même, élevé dans cette dernière ville. Acte 22, verset 3.
Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel selon l'exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
Il avait une sœur dont le fils se retrouve à Jérusalem, dans une circonstance importante de la vie de Saul, devenu l'apôtre Paul. Acte 23, verset 16.
Mais le fils de la sœur de Paul, ayant ouï parler de ce guet-apens, s'en alla et entra dans la forteresse et le rapporta à Paul.
Ce jeune homme, ayant entendu parler d'un complot contre la vie de son oncle, le fit connaître à l'officier qui le gardait. Dieu se servit ainsi de ce jeune homme pour garantir la vie de son serviteur. Quelques parents de Saul sont encore mentionnés par lui dans l'Épître aux Romains. Deux d'entre eux, nommés Andronique et Junias, étaient des chrétiens éminents par leur service dans l'assemblée, distingués parmi les apôtres, dit Paul, et en les faisant saluer. Ils avaient été convertis avant lui, et, comme lui, avaient été prisonniers pour le Seigneur. Un autre parent de Paul, qui se trouvait aussi dans l'assemblée à Rome, se nommait Hérodion, mais nous n'avons sur lui aucun détail. Romains 16, versets 7 et 11.
Salut Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. Salut Hérodion, mon parent.
Remarquez comme tout est simple dans les écrits divins. Le grand but de Dieu est de se faire connaître à nous, de nous révéler le salut et le chemin du ciel. Il n'y a donc rien dans ces saints écrits pour satisfaire la curiosité. Nous aimerions bien avoir, par exemple, quelques détails sur la personne de Saul, savoir quel extérieur il avait, mais cela n'importait pas à l'œuvre pour laquelle Dieu le préparait. Dieu se sert de ce qui n'a pas d'apparence, de ce qui est chétif et faible, comme il peut se servir de ce qui est grand et beau extérieurement. Il ne nous est rien dit de la taille, ni de la figure, ni des manières du Seigneur, ni d'aucun apôtre. Quant à Saul, il semblerait, d'après ce qu'il dit de lui-même, que son extérieur était plutôt chétif et méprisable, et que sa parole n'avait rien d'attrayant. Mais la puissance du Seigneur pour accomplir son œuvre, par le moyen de cet instrument sans apparence, n'en ressort que plus admirablement. 2 Corinthiens 10, verset 10.
Car ses lettres, dit-on, sont graves et fortes, mais sa présence personnelle est faible et sa parole méprisable.
2 Corinthiens 12, verset 7.
Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas.
1 Corinthiens 2, verset 3.
Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement.
Galates 4, verset 14.
Et vous n'avez point méprisé, ni rejeté avec dégoût ma tentation, qui était en ma chair, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus.
Mais si l'instrument que Dieu préparait pour annoncer l'Évangile au loin parmi les nations n'avait pas un extérieur qu'il le recommandât, Dieu lui avait dispensé des dons naturels d'intelligence, auxquels s'ajoutaient des connaissances diverses, en attendant les connaissances et l'intelligence spirituelle sans lesquelles on ne peut pénétrer dans les choses de Dieu. Saul fut sans doute élevé comme les autres jeunes juifs, apprenant dans les écoles à lire et à connaître la loi et le Talmud. Il acquit aussi une certaine connaissance des auteurs grecs, langue qui était parlée dans l'Orient et qui est celle dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. De plus, comme c'était la coutume chez les Juifs, même lorsqu'ils étaient riches et qu'ils avaient étudié pour être rabbi ou docteur de la loi, Saul avait appris un métier. Il était faiseur de tentes. Nous le voyons plus tard, tout en annonçant l'Évangile, exercer ce métier et pourvoir ainsi à ses besoins, et même à ceux de ses compagnons de travaux. Acte 20, verset 34.
Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi.
Nous ne savons pas à quel âge il vint à Jérusalem, mais c'est là qu'il fut élevé et poursuivit ses études afin de devenir rabbi, au pied, c'est-à-dire sous les soins et l'autorité de Gamaliel. Celui-ci était un docteur célèbre, vénéré parmi les Juifs, et que nous avons vu prendre le parti de Pierre et de Jean dans le Sanhédrin, quand les autres Juifs voulaient les faire mourir. Saul fut donc instruit par Gamaliel, selon l'exactitude de la loi, et devint zélé pour Dieu. Il se livrait avec application à l'étude et avançait dans le judaïsme, plus que plusieurs de son âge, étant le plus ardent à s'attacher aux traditions que les docteurs de la loi avaient ajoutées à la parole de Dieu, sous prétexte de l'expliquer, et qui souvent l'annulait, comme le disait le Seigneur Jésus aux pharisiens. Ce n'est pas seulement par son intelligence et ses progrès dans les études que le jeune Saul se distinguait. Il avait aussi à cœur de vivre selon les enseignements de la loi, en toute bonne conscience, s'appliquant à faire tout ce que la loi et les traditions prescrivaient. Il était donc pharisien comme ses ancêtres. Les pharisiens étaient, parmi les juifs, la secte la plus exacte de leur culte, opposée aux sadducéens matérialistes et amateurs des biens de ce monde. Ils conservaient et gardaient avec soin les vérités importantes du jugement, de la résurrection, d'une vie éternelle après celle-ci, et de l'existence du monde invisible des esprits. D'un autre côté, ils observaient avec un soin extrême toutes les ordonnances de la loi et ce que les traditions des anciens y avaient ajouté. Garder la loi était une bonne chose, mais pour le plus grand nombre, la piété n'était qu'une forme et un moyen de s'attirer de la considération parmi les hommes. C'est pourquoi le Seigneur les appelle des hypocrites. Tel n'était pas Saul. Il était sérieux, sincèrement zélé pour Dieu, et quant à la justice selon la loi, sans reproche. Il était tout entier et de cœur pour ce judaïsme qu'il estimait la vraie religion. Il rejetait loin de lui les vanités et les plaisirs du monde qui l'entouraient, et ne voulait que servir Dieu. C'était bon dans un sens, mais son zèle était aveugle. Il ne se connaissait pas lui-même comme un pauvre pécheur perdu et voulait, pour être sauvé, établir sa propre justice devant Dieu. Il était sans doute à Jérusalem quand Jésus avait été saisi, condamné injustement et crucifié. Saul avait donc entendu parler de ses miracles et de sa résurrection. Mais aveuglé par son propre cœur et écoutant les enseignements de ses maîtres, les docteurs juifs, il avait peut-être, comme eux, attribué à Satan les miracles du Seigneur et ajouté foi à la fable que ses disciples avaient enlevé son corps pour faire croire à sa résurrection. Comme ses maîtres, il pensait aussi que Christ avait voulu détruire le temple et abolir la loi, et que les chrétiens seraient cause que les Romains anéantiraient la nation juive. Et Saul, sans examiner si ses maîtres disaient vrai, s'était mis à haïr le nom et la personne de Christ, ainsi que ses disciples. En cela, il ne faisait que suivre la pente naturelle de nos pauvres cœurs ennemis de Dieu, tout en croyant souvent le servir. Il n'y avait donc rien que Saul ne crût devoir faire contre Christ et les siens. Il avait déjà montré sa haine par sa conduite à la mort d'Étienne, qu'il approuvait. Et bien loin que les paroles d'amour du martyr mourant eussent touché son cœur, sa fureur contre les chrétiens n'avait fait que s'accroître. Tel est l'homme dans son état de péché, même l'homme religieux quand il n'a pas la vie de Dieu. Il se montre plus acharné même que le monde contre les enfants de Dieu. L'amour de Jésus n'avait rencontré que la haine chez les Juifs. L'amour et la patience des disciples ne rencontrer que la haine chez Saul et les principaux chefs des Juifs. Saul avait commencé à persécuter les chrétiens à Jérusalem. Il y mettait toute l'énergie de sa nature, entrant dans les maisons, traînant en prison les hommes et les femmes, donnant sa voix quand on les faisait mourir, les contraignant par la violence dans les synagogues à blasphémer le nom de Jésus, en les persécutant outre mesure. Non content d'exercer sa fureur à Jérusalem, il voulut poursuivre les chrétiens même dans les villes étrangères. Dans ce but, il demanda au souverain sacrificateur et aux anciens des lettres pour l'autoriser à saisir, dans les synagogues des autres villes, ceux qui confesseraient le nom de Christ, afin de les amener à Jérusalem pour qu'ils y fussent jugés. Tout cela, il le faisait dans l'ignorance, croyant rendre service à Dieu, mais cela ne l'excusait pas. L'ignorance n'excuse jamais le mal. Lui-même, Paul reconnaît qu'il était un outrageux, un blasphémateur, le premier des pécheurs, et s'accusent avec douleur et humiliation d'avoir persécuté l'Église de Dieu. 1 Timothée 1, verset 13.
Moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité.
1 Corinthiens 15, verset 9.
Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu.
Avec toute sa religion et sa justice selon la loi, avec sa bonne conscience, Saul courait tête baissée dans le grand chemin de la perdition, quand le Seigneur, que lui haïssait, vint dans sa grâce l'arrêter et le sauver. Conversion de Saul. À mesure que Saul poursuivait les chrétiens, sa haine contre eux s'accroissait et, comme nous l'avons dit, dans son animosité contre le nom de Jésus et son désir de le faire disparaître de la terre, il résolut de poursuivre les disciples du Seigneur dans d'autres villes où il pourrait s'en trouver. Parmi ces villes, il y en avait une très grande et importante. C'était Damas, située à 240 kilomètres environ vers le nord de Jérusalem, ancienne cité plusieurs fois mentionnée dans l'Écriture, même au temps d'Abraham, et qui existe encore maintenant. Genèse 14, verset 15.
Il est poursuivi jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas.
Genèse 15, verset 2.
Et Abraham dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. »
Elle compte environ 380 000 habitants, dont un dixième professe le christianisme. Là se trouvait, au temps de Saul, un grand nombre de Juifs, qui y avaient plusieurs synagogues, et parmi eux des disciples de Jésus. Comment y était-il venu? L'Écriture ne nous le dit pas. Mais il pouvait avoir fait partie de ceux qui furent convertis le jour de la Pentecôte, ou bien être des Juifs chrétiens qui, après la mort d'Étienne, furent dispersés par la grande persécution qui s'était élevée. Quoi qu'il en soit, Saul, rempli de pensées de violence contre les disciples du Seigneur, et sachant qu'il en demeurait à Damas, demanda, comme nous l'avons vu, au souverain sacrificateur de lui donner, pour les synagogues de cette ville, des lettres qui l'autoriseraient à saisir les disciples de Jésus qui s'y trouveraient. Il voulait les amener liés, hommes et femmes, à Jérusalem, afin qu'ils y fussent punis. On peut penser si sa demande fut bien accueillie par ces chefs du peuple qui avaient haï le Seigneur et l'avaient fait mourir, et qui venaient de mettre à mort son fidèle témoin Étienne, comme pour dire à Jésus, « Nous ne voulons décidément pas que tu règnes sur nous. » Saul partit donc avec ses lettres. Représentons-nous cet homme poursuivant son voyage en roulant des pensées de vengeance contre ces misérables Nazaréens qui, pensait-il, voulaient détruire la loi et s'opposaient à Dieu. Voyons-le blasphémant en lui-même contre Christ qu'il regardait comme un imposteur, haïssant ainsi Dieu qu'il croyait servir. Mais n'avait-il pas eu le cœur touché en voyant la mort si glorieuse d'Étienne? Non. N'avait-il pas compassion de ceux qu'il persécutait et qui souffraient avec tant de patience tous les outrages? Non. Telle est la dureté, tel est l'aveuglement du cœur naturel. Saul, avec toute sa sincérité, sa droiture, sa moralité, sa religion, tout en croyant être agréable à Dieu, courait tête baissée vers la perdition, puisqu'il rejetait Christ. Et il en est de même maintenant. Avec la plus belle profession religieuse, si l'on n'a pas Christ, on est perdu. Mais Dieu avait des pensées de grâce à l'égard de Saul, et Jésus, qu'il haïssait, le suivait du haut du ciel avec amour. Le Seigneur voulait non le perdre, mais le sauver. Saul s'avançait sur la route de Damas avec son escorte. Peut-être était-ce des hommes que le souverain sacrificateur lui avait donnés pour l'aider à accomplir son dessein. Il approchait de la ville lorsque, vers midi, tout à coup, avec la soudaineté d'un éclair, une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil, brilla du ciel autour de lui et de ceux qui l'accompagnaient. Tous, et seuls avec eux, saisis de crainte, tombèrent par terre sous l'impression puissante de cette manifestation divine. Qu'était-ce donc? Du sein de cette gloire se fait entendre une voix. Quelqu'un se trouvait dans cette lumière céleste qui éclipsait celle du soleil. « Sol, Sol, dit la voix, pourquoi me persécutes-tu? » C'était quelqu'un qui connaissait Sol, quelqu'un qui voyait ce qui était dans le cœur de Sol et qui suivait tous ses mouvements contre les disciples de Jésus. Sol savait que cette voix venait du ciel. Il savait aussi que l'Éternel habite dans la nuée, dans l'obscurité. Mais qui était celui qui habitait dans cette splendeur, dans cette gloire qui l'anéantissait, lui, Sol? Il l'ignorait, mais qu'il devait être grand et puissant. Sol, abattu, prosterné contre terre, demanda, « Qui es-tu, Seigneur ? » Il reconnaissait que celui qui lui parlait était digne de ce nom de Seigneur. Et quelle dut être sa surprise, le saisissement de son âme, en entendant la voix lui dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus, celui qui lui parlait du sein de la gloire divine, c'était le crucifié, le Nazaréen méprisé, celui que Sol pensait ne pouvoir assez haïr. Il n'était donc pas resté dans le sépulcre. Dieu l'avait donc ressuscité d'entre les morts. Il était donc dans la gloire. Ce qu'Étienne avait dit avant de mourir était donc vrai. Celui qui parlait était le Fils de Dieu, le resplendissement de sa gloire, et c'était lui que Sol poursuivait de sa haine. Quelle révolution dans le cœur et tout l'être du pharisien irréprochable, gisant dans la poussière. Tout ce dont il pouvait se glorifier devant les hommes, sa moralité, son zèle pour la loi, sa propre justice, tout était brisé, anéanti. Il était le premier des pécheurs, puisqu'il s'était opposé au Fils de Dieu, à Dieu lui-même. Et ces chrétiens, si misérables et si méprisables à ses yeux, était si précieux au Fils de Dieu dans la gloire, lui était si étroitement uni, qu'il ne faisait qu'un avec lui, et que les toucher seulement s'était porté atteinte au Christ. Quelle révélation merveilleuse de ce qu'est Christ et de la place qu'occupent ceux qui lui appartiennent. Et ce sont des vérités précieuses pour nous aussi que celles qu'apprenait Sol en ce moment solennel et que plus tard il prêcha. Christ est le Sauveur dans la gloire, et les fidèles lui sont unis comme membres de son corps. Mais Jésus, qui a abattu l'orgueil de Sol et l'a convaincu de son état de péché, a autre chose à lui dire. Il a maintenant à lui parler de grâce, mais cela viendra plus tard, quand d'autres exercices de cœur et de conscience auront montré la réalité de l'œuvre accomplie dans l'âme du pharisien. Sol, prosterné, humilié, reconnaissant les droits de Jésus sur lui, demande avec soumission, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur ne le lui dit pas, mais lui commande de se lever et d'aller à Damas. Là, quelqu'un de ceux qu'il avait méprisés devait l'instruire, lui le disciple de Gamaliel. Le Seigneur veut se servir maintenant d'un instrument pour parler à Saul. Celui-ci ne regimba pas contre les aiguillons. Son cœur était soumis. Il ne résista pas à la vision céleste. Il se leva, mais l'éclat de la gloire divine avait ôté à ses yeux, quoique ouvert, la faculté de voir les choses extérieures. Elle ne devait pas le distraire de la contemplation des choses intérieures. Ceux qui étaient avec lui le conduisirent par la main. Le voilà dépendant, lui, l'homme indépendant, qui ne suivait que ses propres pensées. Le voilà faible, lui l'homme fougueux et impérieux. Il est brisé de toute manière. Il est conduit à Damas, et là, durant 3 jours, sans voir, ni manger, ni boire, en dehors du monde extérieur, il reste seul avec Dieu, repassant en lui-même la révélation merveilleuse qu'il avait eue, et, sous le poids de son péché, s'humiliant et priant. Quelle douleur! Quelle repentance il devait éprouver, quelles angoisses dans son âme, en se voyant dépouillé de tout ce qu'il croyait être devant Dieu. Il s'estimait juste, et sa justice n'était que des haillons souillés. Comment échapper? Comment être sauvé? Dieu répond toujours à ses besoins d'une âme repentante, à ses prières d'un cœur brisé. Jésus s'était fait connaître à Saul dans sa gloire, afin de lui montrer son péché et son néant. Maintenant, il va se faire connaître à lui, dans son amour, afin de gagner son cœur, et c'est ainsi que Dieu fait toujours. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Rien ne nous est dit de sa position sur la terre, rien ne nous est raconté de sa vie, avant ni après l'événement qui le met en rapport avec Saul de Tarse. Nous voyons seulement qu'il vivait dans l'intimité de Jésus qu'il connaissait. C'est le privilège de tout chrétien, de chacun de ceux qui ont saisi Jésus pour leur sauveur. Le Seigneur s'adresse à Ananias, et celui-ci, sans éprouver nulle crainte, sans être jeté par terre comme Saul, en entendant cette voix divine, répond « Me voici, Seigneur ». Qu'il est doux de connaître la voix de Jésus, et qu'il est bon d'être prêt à lui obéir. Et le Seigneur charge son fidèle disciple d'aller chercher le pécheur repentant, et, en lui rendant la vue, de lui annoncer le message de miséricorde. « Il prie », ajoute le Seigneur en parlant de Saul. Un homme qui prie et dont Dieu reconnaît la prière est cher à son cœur. Quel privilège pour Ananias d'être choisi pour porter un tel message. Mais il ne connaît Saul que comme le terrible persécuteur des saints, et il redoute d'aller le trouver. En toute simplicité, il expose ses craintes au Seigneur qui, plein de condescendance pour la faiblesse de son disciple, le rassure en lui disant « Va, car j'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Ananias obéit à son divin maître et va, messager de la grâce, annoncer au pécheur brisé la bonne nouvelle du pardon de la part du même Seigneur qui lui était apparu dans sa gloire et avait arrêté le persécuteur. « Saul, frère, lui dit-il, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. » Ananias lui impose les mains, et aussitôt Saul voit l'envoyé du Seigneur. Mais en même temps qu'il a la vue du corps, il a aussi la vue de l'âme qui lui fait discerner dans le Seigneur de gloire, le Sauveur crucifié pour ôter ses péchés, le Fils de Dieu qui l'a aimé et s'est livré pour lui. À l'avenir, il pourra dire et proclamer « Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. » 1 Timothée 1,15. Saul est baptisé et entre dans cette église de Dieu qu'il persécutait et voulait détruire et dont il va être le serviteur zélé. Il reçoit le Saint-Esprit qui, tout en rendant témoignage avec son esprit qu'il est enfant de Dieu, le remplit de puissance pour le service qu'il aura à remplir. Il se joint aux disciples qui étaient à Damas et qu'il voulait jeter en prison et prêche avec force dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Quel changement! C'est le miracle de la grâce de Christ pardonnant aux plus grands pécheurs et gagnant le cœur le plus éloigné de lui, pour en faire le disciple le plus fidèle, le serviteur le plus dévoué. Nous ne sommes pas des Sauls, mais tous nous avons besoin de connaître le Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Tous nous devons croire en lui pour être sauvés. Tous nous pouvons jouir du privilège d'être ses disciples et ses serviteurs. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Voilà la devise de Paul. Puisse-t-elle être la nôtre? Pierre ouvre aux nations la porte du royaume des cieux. Histoire de Corneille. Saul, dont nous avons vu la merveilleuse conversion, avait bien été choisi de Dieu pour porter l'Évangile aux nations. Mais c'est l'apôtre Pierre qui, sur l'ordre du Seigneur, leur ouvrit le premier d'une manière publique la porte du salut. Le Seigneur Jésus, étant encore sur la terre, lui avait dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le jour de la Pentecôte, Pierre avait ouvert aux Juifs le royaume des cieux en leur annonçant la rémission des péchés au nom de Jésus, et il allait aussi introduire les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, dans la même bénédiction. Mais, pour cela, Pierre avait besoin d'un ordre formel de la part de Dieu, car les Juifs n'avaient pas de communication avec les nations. Ils pensaient que les bénédictions divines leur appartenaient à eux seuls, et Pierre lui-même n'avait pas encore compris que le Seigneur voulait que la rémission des péchés fût prêchée en son nom à toutes les nations, ni ce que signifiait cette parole de Jésus, « Et moi, si je suis élevé de la terre, sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi, de quelque nation qu'ils fussent. C'est la croix qui a détruit la barrière entre les Juifs et les païens, en montrant que les uns, comme les autres, étaient des pécheurs et avaient également besoin d'un sauveur. C'est à Césarée, et non à Jérusalem, qu'eut lieu ce fait important de la réception des gentils dans l'assemblée, ou l'Église chrétienne, et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous en dit. La ville de Césarée était située au bord de la mer, vers le nord-ouest et à 120 kilomètres de Jérusalem. Il n'en reste actuellement que des ruines, mais au temps des apôtres, elle était grande et importante. C'était là que résidait le gouverneur romain et que se trouvait le siège de l'administration civile et militaire du pays. Bien qu'un certain nombre de Juifs s'y fussent établis, c'était donc une ville essentiellement païenne, mais qui convenait ainsi au dessein du Seigneur. Dans cette ville se trouvait un officier romain nommé Corneille. Il était pieux et craignait Dieu, sans être cependant un prosélyte juif. Nous ne savons pas d'où lui était venue la connaissance du vrai Dieu. Peut-être les Écritures de l'Ancien Testament lui étaient-elles tombées entre les mains. À cette époque, il y avait, parmi les païens, bien des âmes qui étaient dégoûtées du culte des idoles, et que Dieu préparait pour des choses meilleures. Par le moyen des Juifs dispersés, la connaissance d'un Dieu unique et créateur se répandait, et ses âmes la recevaient avec empressement. La piété de Corneille se manifestait dans sa vie. Toute sa maison craignait Dieu comme lui. Il avait même dans sa cohorte des soldats pieux, preuve de l'influence qu'il exerçait autour de lui. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ces deux choses, l'amour du prochain et la dépendance de Dieu, démontraient bien la réalité de sa piété. De plus, toute la nation des Juifs lui rendait un bon témoignage. Il était loin de les mépriser ou de les persécuter, comme le faisaient volontiers les Romains. N'était-ce pas un beau caractère ? Il nous rappelle cet autre centurion romain qui vint demander au Seigneur la guérison de son serviteur malade et qui donna à Jésus l'occasion d'annoncer d'avance l'introduction des nations dans le royaume des cieux. Corneille était donc un homme dont le cœur était tourné vers Dieu, mais cela n'est pas le salut. Corneille n'était pas sauvé par sa piété, ses aumônes et ses prières. Mais Dieu, qui avait commencé la bonne œuvre en lui, voulait aussi l'achever et lui faire entendre la bonne nouvelle du salut par Christ. Comme il était un après-midi, vers 3 heures, en jeûne et en prière dans sa maison, il vit clairement en vision un homme couvert d'un vêtement éclatant et se tenant devant lui. C'était un saint ange de Dieu, un messager que Dieu lui envoyait en réponse à ses prières. Les anges, est-il dit, sont des esprits administrateurs, des serviteurs que Dieu emploie en faveur de ceux qui vont hériter du salut. L'ange n'était pas chargé d'annoncer l'évangile à Corneille, mais de lui faire connaître l'homme que Dieu avait choisi pour cela. C'était déjà un heureux message pour le centurion romain. « Corneille, lui dit l'ange. » Corneille fut effrayé de cette apparition soudaine dans le lieu retiré où il priait. « Qu'est-ce, Seigneur ? » demanda-t-il, reconnaissant bien le caractère céleste de celui qui parlait. « Ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu, dit le messager divin. » Dieu répond toujours et partout à la prière sincère. Il a les yeux sur ceux qui sont droits de cœur et qui agissent fidèlement, selon la connaissance qu'ils ont de lui. Ceux qui le craignent lui sont agréables. Le craindre est le commencement de la sagesse. Quelle était donc la prière de Corneille que Dieu avait exaucée? La suite nous le montre. Corneille désirait mieux connaître Dieu. Il avait soif de salut, et Dieu allait répondre à ses besoins de son cœur. L'ange continua à lui parler en lui disant, « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui sera surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera et te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ainsi, être sauvé était ce que désirait Corneille. Est-ce là l'ardent désir de votre cœur? Alors Dieu vous exaucera aussi. Aussitôt que l'ange se fut retiré d'avec lui, Corneille, le cœur sans doute rempli d'émotion, de joie et de reconnaissance envers ce Dieu si bon qui avait exaucé sa prière, envoya à Joppé deux des gens de sa maison avec un soldat pieux, après leur avoir raconté tout ce qui lui était arrivé. Quelle touchante intimité existait entre ce maître et ses serviteurs. C'est qu'eux aussi craignaient Dieu et avaient ainsi un intérêt bien grand dans la mission qu'ils avaient à accomplir. Représentons-nous la sainte impatience qui remplissait le cœur de Corneille en attendant la venue du serviteur de Dieu qui devait lui annoncer le salut. Tandis que Corneille attend et que ses serviteurs sont en route vers Joppé, faisons un peu connaissance avec cette dernière ville et ce qui s'y passait. Joppé, ou Jaffo, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Césarée, était une ville très ancienne, située dans une plaine riche et fertile. Il en est déjà question dans le livre de Josué, comme appartenant à la tribu de Dan. C'était un port de mer fréquenté. Là, au temps de Salomon et d'Esdras, étaient amenés les bois de cèdre du Liban pour la construction du temple. Là, le prophète Jonas s'était embarqué pour fuir de devant l'Éternel, auquel il ne voulait pas obéir. De nos jours, la ville et le port existent encore sous le nom de Jaffa et ont une assez grande importance. Beaucoup de navires y abordent pour le commerce et amènent des pèlerins et des voyageurs qui, de là, se rendent à Jérusalem. Une note en bas de page. Rappelons que tout ceci a été écrit il y a près de 100 ans. Depuis, la grande ville de Tel Aviv est née et s'est développée aux portes de Jaffa. Elle est aujourd'hui la plus peuplée de l'État d'Israël, constituée en 1948. De son côté, Lydde, dont il va être question, est devenue une très importante localité. Reprise de l'esquisse. Voici comment l'apôtre Pierre avait été conduit à Joppé. Comme il visitait les assemblées de Judée, il arriva à Lydde, ville autrefois nommée Lod et située à une vingtaine de kilomètres de Joppé, sur la route de Jérusalem. C'est maintenant encore un bourg florissant, comptant plusieurs milliers d'habitants, entouré de riches vergers d'oliviers, de grenadiers, de figuiers et d'autres arbres, au milieu d'une contrée très fertile. Là, Pierre guérit, au nom de Christ, un homme paralytique nommé Aîné, malade depuis 8 ans. Ce fut le moyen dont Dieu se servit pour attirer à l'Évangile un grand nombre de gens de Lydde et du Saron, la contrée environnante. Ils se tournèrent vers le Seigneur. Ainsi s'accroissait l'assemblée chrétienne. Mais Pierre devait aussi exercer son ministère à Joppé. Dieu voulait déployer aussi dans cette ville sa merveilleuse puissance et sa grâce, et voici de quelles circonstances il se servit pour y conduire l'apôtre. Il y avait, dans l'assemblée de Joppé, une pieuse femme nommée Dorcas. Sa vie était tout entière consacrée au Seigneur. Elle s'occupait des pauvres parmi lesquels elle répandait d'abondantes aumônes, et des veuves indigentes pour lesquelles elle travaillait, leur faisant des robes et d'autres vêtements. Elle tomba malade et mourut. Mais, comme nous le verrons, sa mort, grande épreuve pour les disciples, devait être pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il en est toujours ainsi des épreuves que Dieu envoie à ses enfants. Les chrétiens de Joppé apprirent que Pierre était à Lydde, à peu de distance d'eux, et aussitôt ils le firent chercher, en lui disant le deuil dans lequel il se trouvait. Pierre arrive à Joppé, fut conduit dans la chambre haute où se trouvait le corps de Dorcas, entouré des veuves qui pleuraient leur ami délogé. L'apôtre, sans doute ému de compassion, comme autrefois son divin maître, fit sortir tout le monde, et, seul avec son Seigneur, il le pria d'exercer sa puissance pour consoler ceux qui pleuraient, de même qu'autrefois il avait consolé la veuve de Naïn, et Marthe et Marie. Et Pierre savait que sa prière était exaucée, car le Seigneur avait dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai ». Aussi, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha » ou « Dorcas, lève-toi ». Et la morte revint à la vie. Tout Joppé eut connaissance de ce déploiement merveilleux de la puissance de Dieu par le moyen de l'apôtre, et là aussi plusieurs crurent au Seigneur. Pierre resta dans cette ville quelques jours avec l'assemblée et les nouveaux convertis, et c'est là, chez Simon, le corroyeur, que les envoyés de Corneille devaient le trouver. Au moment où les envoyés de Corneille approchaient de Joppé, Pierre, vers le milieu du jour, était monté pour prier sur le toit en terrasse de la maison. Il eut très faim, et, tandis qu'on lui apprêtait à manger, il vit, dans une extase ou ravissement d'esprit, le ciel ouvert et une sorte de récipient, comme une grande toile tenue par les quatre coins, descendant sur lui et renfermant des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux, tous animaux impurs selon la loi, et dont un juif ne devait pas manger la chair. En même temps, une voix se fit entendre du ciel disant à Pierre, « Tue et mange !» Pierre, en juif fidèle, répondit, « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Mais la voix céleste, s'adressant de nouveau à lui, dit, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Trois fois la vision se répéta, afin de bien montrer à l'apôtre l'importance de ce que Dieu voulait aussi lui enseigner. Mais il ne comprenait pas d'abord, et il était en perplexité pour savoir ce que signifiait cette vision. Dieu allait le lui montrer. Les envoyés de Corneille arrivaient en cet instant devant la maison et demandaient si Simon, surnommé Pierre, demeurait là. En même temps, l'Esprit Saint lui dit, « Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » C'est ainsi qu'en ces temps l'Esprit Saint, qui demeurait en eux, guidait directement les serviteurs de Dieu dans leur ministère. C'était particulièrement nécessaire dans un cas tel que celui-ci, car les apôtres, juifs fidèles, encore attachés aux traditions, n'auraient jamais voulu aller chez un païen sans un ordre exprès de Dieu. Aujourd'hui encore, les serviteurs de Dieu, fidèles, qui s'attendent à lui et le prient, peuvent bien compter que Dieu les dirigera dans ce qu'ils ont à faire pour lui. Pierre descendit donc et écouta le message de Corneille. Il comprit alors la signification de la vision qu'il avait eue. Il vit que la barrière entre juifs et nations était renversée et que ces païens, estimés impurs et représentés par ces animaux dont ils n'avaient pas voulu manger, étaient purifiés par Dieu lui-même pour avoir aussi part à la grâce du salut. Pierre n'hésita donc pas à loger les serviteurs de Corneille cette nuit-là, et, le lendemain, partit avec eux, accompagné de 6 frères de Joppé. De cette manière, il y avait plusieurs témoins de ce que Dieu, dans sa grande grâce, allait opérer en faveur de pauvres païens, plongés jusqu'alors dans les ténèbres et l'ombre de la mort, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Que se passait-il à Césarée? Corneille n'avait pas voulu être seul à profiter du message que Dieu lui envoyait par Pierre. Il avait réuni ses parents et ses intimes amis. Lorsque nous avons vraiment à cœur le salut de notre âme, nous désirons que les autres entendent comme nous l'Évangile. Pierre étant entré dans la maison, Corneille alla au-devant de lui et se jeta à ses pieds pour l'adorer. Mais l'apôtre le releva, en lui rappelant qu'il n'était aussi qu'un homme. L'adoration n'est que pour Dieu seul. Pierre suivit Corneille dans le lieu où étaient réunis ceux qui désiraient entendre la bonne nouvelle. Il commença par leur rappeler que, comme juif, il n'aurait pu venir auprès d'eux, mais que Dieu lui avait montré qu'il ne fallait appeler aucun homme impur ou souillé. Ensuite, il leur demanda pour quelle raison il l'avait fait venir. Corneille lui raconta la vision qu'il avait eue, l'ordre que l'ange lui avait donné, et termina en disant « Tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. Quel sérieux, n'est-ce pas? Quel sentiment de la présence de Dieu, et quel désir d'entendre sa parole. Puissions-nous avoir ces dispositions quand un serviteur de Dieu, envoyé de sa part, vient nous parler et être en présence de Dieu pour écouter sa parole. Ce fut une réunion bénie où l'Esprit Saint agit avec puissance par la parole de l'apôtre. Pierre commença par reconnaître avec admiration devant ses auditeurs gentils que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Puis il leur annonça l'Évangile, la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, le Seigneur de tous, du gentil comme du juif. Il leur dit comment Dieu avait envoyé aux fils d'Israël la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, comment Jésus de Nazareth, oint du Saint-Esprit et de puissance, allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant ceux que le diable opprimait, comment les Juifs l'avaient fait mourir sur la croix, mais aussi comment Dieu l'avait ressuscité et établi juge des vivants et des morts. C'est donc Jésus, notre adorable Sauveur, dans sa vie sainte, dans sa mort sur la croix maudite, dans sa résurrection et son exaltation glorieuse, que Pierre présente à ces gentils qui avaient soif de salut, de paix et de vie. Or Jésus répond seul à ses besoins de l'âme. Il a dit lui-même, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Connaître vraiment Jésus dans son cœur est ce qui rend heureux. Pierre termine son discours si simple par ces paroles. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Quiconque, ce n'est pas seulement les Juifs. Les gentils, gens des nations, sont aussi compris dans ce mot, et vous aussi, lecteurs qui êtes un pécheur, vous êtes un de ces quiconques qui a besoin de pardon. Et, si vous croyez en Jésus, vous recevrez la rémission de vos péchés, chose la plus nécessaire, la plus précieuse, sans laquelle on est à jamais séparé de Dieu. Quand Corneille et ses amis entendirent les dernières paroles de Pierre, qui proclamaient la grâce miséricordieuse de Dieu, sans doute ils les saisirent avec joie dans leur cœur et crurent, car Pierre parlait encore que le Saint-Esprit tomba sur ceux qui l'écoutaient. On pouvait dire d'eux comme des Éphésiens, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, Éphésiens 1, verset 13. C'est le grand privilège de tout croyant de devenir un temple où le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Puissions-nous tous jouir de cette bénédiction. Les Juifs, venus de Jopé avec Pierre, s'étonnèrent de voir les gentils participer à la même grâce qu'eux. Mais ils n'en pouvaient douter. La puissance de l'Esprit-Saint se montrait dans ces nouveaux convertis, en ce qu'ils parlaient des langues étrangères, et que leur bouche s'ouvrait pour magnifier Dieu. Étant scellés du Saint-Esprit, ils faisaient donc partie de l'assemblée chrétienne, tout comme les Juifs. Aussi Pierre ordonna-t-il qu'on les baptisât au nom du Seigneur, ce qui était le signe extérieur de la réception dans l'assemblée. Pierre avait accompli sa mission à l'égard des nations. Il leur avait ouvert la porte, et maintenant Dieu, par le ministère de Paul et d'autres, allait introduire dans l'Église une grande quantité de ces pauvres gentils, jusqu'alors dans l'ignorance de Dieu. C'est du fruit de ces travaux que nous jouissons actuellement.